Psaume 11, au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemple sa face. Et tout le monde dit
Amen.
Amen. Amen. C'est ce que nous voulons voir, c'est ce que nous voulons faire encore ce soir, contempler la face de Dieu et le voir tel qu'il est, le voir tel que sa parole nous le montre, nous le présente, le voir assis sur son trône. Et cela a de grandes et de merveilleuses conséquences. Dans ce psaume, on peut voir les deux. On peut voir autant les mauvaises conséquences et autant les bonnes, justement. De ce fait de regarder à l'Éternel, de se confier en lui et de le voir assis sur son trône ou justement de ne pas réaliser et saisir sa grandeur. L'attitude justement de ne pas saisir la grandeur de Dieu, on la voit simplement clairement au travers de ce premier verset. C'est la fuite, c'est les conséquences de ne pas saisir la grandeur de Dieu, c'est de fuir. Fuis dans vos montagnes comme un oiseau, c'est le conseil qu'on a donné à David à ce moment-là. Et ce conseil encore peut être donné, peut être entendu de par plusieurs et certains peuvent y céder. Certains peuvent céder à cet appel, à fuir. Peut-être que c'est là votre attitude ce soir, l'attitude de certains à fuir Dieu, à fuir les problèmes, à fuir les difficultés, à fuir les responsabilités. Mais on sait que cette attitude n'arrange jamais rien, que bien au contraire, ça aggrave les difficultés, les problèmes. On pourrait tout essayer. On pourrait changer de lieu d'habitation, changer d'église, changer d'amis, changer de profession. Quand on ne règle pas les situations auxquelles on est confronté, les problèmes que l'on peut avoir, quand on ne règle pas le péché, bien ces situations nous rattraperont toujours, nous suivront toujours. Quelqu'un a dit, ce que tu fuis te suit, ce à quoi tu fais face s'efface. Alors je ne sais pas si cette personne était croyante, mais je trouve ce conseil très sage. La parole de Dieu nous appelle justement à savoir aussi écouter même les gens de ce monde. La parole de Dieu nous parle des enfants de ce siècle et nous dit que les enfants de ce siècle sont à certains égards plus prudents que les enfants de lumière, les enfants de Dieu. C'est pas souvent un verset sur lequel on s'appuie pour faire une prédication, parce que c'est vrai, c'est pas à notre avantage. C'est pas ce qui flatte notre marche avec le Seigneur. Mais on a besoin de l'entendre aussi. Il y a des conseils qui sont bons. Et c'est vrai que je trouve cette parole bonne à saisir pour nous ce soir. Alors, dans un certain sens, ce à quoi tu fais face s'efface, parce que nous savons que nous ne pouvons pas faire face aux situations parce que nous l'avons saisi par la grâce de Dieu, par nous-mêmes. C'est pas par nos propres forces, c'est pas avec notre intelligence qu'on peut avancer malgré les soucis, les difficultés, les épreuves. On le sait, c'est par la grâce de Dieu, c'est par sa présence qu'on peut arriver à avancer, à aller plus loin avec lui. Et c'est bien là ce qu'il faut saisir. C'est avec lui ce soir qu'on veut, c'est par lui qu'on veut avancer. C'est pas par nous-mêmes qu'on veut régler les problèmes, les situations. Maintenant, ce qui nous donne de pouvoir faire face aux situations, comme pour David à ce moment-là, c'est justement de voir Dieu, de le voir assis sur son trône. C'est que cette vision justement qui l'a profondément encouragé, aidé dans les circonstances par lesquelles il passait. Parce qu'on comprend que David à ce moment-là passait par des épreuves difficiles. On ne sait pas quoi exactement, mais on voit, il nous parle des fondements qui sont renversés au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Et il arrive parfois aussi qu'il y ait dans nos vies des fondements qui peuvent être renversés. Vous savez, les fondements sont ce sur quoi on peut s'appuyer fermement, et c'est sur ce sur quoi parfois il peut, oui, se bâtir un édifice. Et parfois Dieu permet justement qu'il y ait certains fondements qui ne sont pas toujours bons ou qui ne sont pas toujours les plus importants. Il arrive parfois que ces fondements s'écroulent. Et le Seigneur permet ces situations pour que justement on puisse tout fonder sur lui, tout appuyer sur lui, placer une entière foi sur lui, une entière confiance uniquement sur lui, et ne pas se confier peut-être sur notre portefeuille, notre compte en banque. Il y a des personnes qui ont pour fondement, et c'est leur sécurité, leur moyen financier. Il y en a pour d'autres, leur sécurité, ce en quoi ils se confient, c'est les personnes qu'ils peuvent avoir autour d'eux. C'est leur épouse, leur ami, parfois chrétien, le pasteur peut-être, même de l'église, peut-être justement une personne sur laquelle on peut s'appuyer souvent. Et Dieu peut permettre justement que ces fondements pour nous, dans nos vies, soient un temps ébranlés, pour qu'on puisse réaliser qu'est-ce qu'il y a de plus important, qu'est-ce qu'il y a de plus valable et qu'il faut avoir absolument à la base de nos vies, lui-même, tout simplement. Parce qu'on sait que ce fondement-là ne sera jamais ébranlé, jamais renversé. Et quelles que soient par la suite les situations, quelles que soient par la suite le chemin, les difficultés, les problèmes, notre foi, notre confiance en Dieu, si elle est là, si c'est sur lui que nous nous appuyons, nous savons que nous tiendrons par sa grâce. Nous savons que c'est ce qui nous donnera d'avancer. Et c'est ce qui a permis à David. C'est ce qui a permis à David de traverser. C'est uniquement cela qui a permis à David de traverser ces épreuves par lesquelles il passait. Il se posait cette question, oui, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Eh bien, on le voit, l'attitude de David, il ne fuit pas. Il reste là où Dieu l'a placé. Il choisit de faire face en plaçant sa confiance en l'Éternel. C'est pourquoi il peut dire, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? C'est pourquoi il peut dire, comment pourrais-je fuir? Je sais en qui j'ai cru. Et nous voyons David, justement, par cette attitude de foi, de confiance, qu'il est dans une pleine assurance, une pleine paix, un plein repos. Et qu'est-ce qui lui donne cette pleine assurance et ce repos? C'est ce qu'il voit. C'est de voir Dieu sur son trône. Nous le voyons au verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ce n'est pas le seul à avoir saisi cela. On pourrait prendre une quantité de témoignages dans la parole d'hommes de Dieu qui ont pu voir Dieu sur son trône et qui ont pu être puissamment fortifiés. J'ai pris Ésaïe. On voit Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Il est écrit « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » C'est aussi la vision de Michée, dans un roi, chapitre 22, verset 19, il est dit, et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Jérémie aussi. Voyez le trône de Dieu. C'est des hommes qui ont vécu des situations difficiles. Quand on voit leur ministère, leur vie, leur service, les circonstances dans lesquelles ils étaient, il y avait des fondements qui étaient renversés pour eux aussi. Jérémie, quand on voit le ministère de Jérémie, un homme qui, on pourrait dire, a vécu son ministère, tout son ministère dans les pleurs, dans les souffrances, dans le combat, mais Jérémie, dans justement ce livre des Lamentations, dans le dernier chapitre, nous le voyons, il est écrit dans Lamentations 5, verset 19, « Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. » David l'a réalisé d'ailleurs par ailleurs, c'est ce qu'il repassait dans son cœur. C'était ça qui fortifiait sa foi, c'était ça qui lui faisait du bien, c'est ça qui le faisait avancer, qui lui donnait cette attitude d'être dans la tranquillité. Il pourra dire dans le psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Et on pourrait prendre, je vous dis, une quantité d'autres passages qui nous montrent à ces hommes de Dieu, ces hommes de foi qui ont réalisé, qui ont vu l'Éternel sur son trône. L'Éternel était sur son trône. David a réalisé que dans ces circonstances où justement les fondements de la terre étaient bouleversés aussi lors du déluge, dans ces circonstances vraiment dramatiques, des plus terribles, David a réalisé que dans le passé, Dieu régnait. Mais il a réalisé aussi que, nous le voyons au psaume 11, qu'à ce moment-là, dans sa vie présente, dans ce qu'il vivait, il réalisait qu'au présent, Dieu régnait. Et il réalisait, nous l'avons lu dans le psaume 29, que l'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Il a réalisé qu'il régnait au passé, au présent, et au futur, et à jamais. Ce soir, comment voyons-nous Dieu? Comment le voyons-nous? Est-ce que nous le voyons sur son trône élevé? Est-ce que nous voyons Dieu régner? Ou est-ce que nous le voyons limité, voire vaincu? Comment voyons-nous Dieu? L'Éternel n'a pas changé. Et c'est ce que doit voir tout enfant de Dieu. La même vision que ces hommes de Dieu. C'est ce qui nous donnera de la force, c'est ce qui nous donnera du courage, c'est ce qui nous donnera de l'espérance. Et par conséquent, d'être dans le repos, dans la paix. Voir le trône de Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce qu'on pourrait partager et étudier, voir au travers de tous ces textes, justement, la beauté du trône de Dieu, voir d'une manière très théologique, très théorique, par plusieurs enseignements de la parole, le trône de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Quand on parle de trône, simplement, on parle forcément de roi. Vous êtes d'accord avec moi? On parle de gouverneur, de juge, de souverain. Et c'est ce que cela doit signifier quand on parle du trône de Dieu pour nous. C'est ce que l'on doit expérimenter véritablement, pleinement dans nos vies. Quand on est d'accord avec le trône de Dieu, quand on est d'accord pour dire oui, Dieu est sur son trône, Dieu règne, c'est être d'accord pour qu'il règne sur nos vies, c'est être d'accord pour qu'il justement soit le roi, soit celui qui nous gouverne, soit celui qui nous jugera aussi. Parce que la parole nous prévient, Dieu est celui qui nous jugera, il jugera les actions secrètes de tous les hommes, et nous savons que justement en nous approchant de lui, nous savons que nous pourrons être justifiés par sa grâce. C'est aussi cette réalité de savoir que quand on parle du trône de Dieu, c'est réaliser oui qu'il est souverain et dans nos vies. C'est accepter la souveraineté de Dieu, c'est réaliser et vivre que Dieu contrôle tout, dirige tout, entièrement, pleinement, qu'il fait concourir toute chose à notre bien. C'est ça, accepter et voir le trône de Dieu d'une manière concrète et pratique. Parce que oui, mes frères et sœurs, encore aujourd'hui, dans notre siècle présent, dans cette fin d'année 2017, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas été détrôné. Il ne sera jamais. Il est sur son trône. Et nous avons besoin de le voir, besoin d'être imprégné de cette vision, de le réaliser et que ça remplisse notre cœur. C'est Job qui, dans ses épreuves, dans son malheur, dans ses tristesses, dans vraiment cette situation vraiment terrible par laquelle il est passé, qui a pu dire dans Job 23, verset 3, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Et peut-être que ce soir, tu en es là aussi. Peut-être que tu aussi te demandes, mais comment atteindre le trône de Dieu? Comment m'approcher de lui? Comment le trouver dans les situations par lesquelles je passe, par lesquelles je traverse, même en étant chrétien? Ça peut être une question. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la question d'une chrétienne qui justement me demandait sincèrement, honnêtement, mais Mais qu'est-ce que signifie justement ce verset, s'approcher du trône de la grâce? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que même en tant que chrétien, même avec plusieurs années d'expérience dans la vie chrétienne, je crois qu'on a vraiment toujours besoin de saisir qu'est-ce que ça signifie et de vivre cette réalité quotidiennement, de s'approcher réellement du trône de la grâce de Dieu, parce que c'est un appel. C'est un appel. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle ce soir. C'est ce verset Hébreux 4:16. Approchons-nous donc. Approche-toi ce soir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans un ou deux besoins, pas plus. Dans tous nos besoins, dans nos besoins, la version dit seconde, dans nos besoins avec nos S, besoin S, bien sûr. Ce qui signifie très simplement qu'on peut être secouru, oui, dans tous nos besoins, dans tout ce dont on a besoin, ici-bas, maintenant, en nous approchant du trône de la grâce. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai que souvent c'est un verset que l'on cite dans nos prières, que c'est un verset que l'on utilise aussi beaucoup, même dans les prédications. Mais qu'est-ce que ça signifie, nous approcher avec assurance du trône de la grâce, le trône de la grâce? Ça signifie que c'est une grâce immense de s'approcher de son trône, du trône de Dieu, et qu'on ne le mérite pas. C'est pour cela que c'est appelé, que ce trône est appelé le trône de la grâce. C'est que on ne mérite pas de s'approcher de ce trône, mais Dieu nous donne sa grâce. C'est une faveur imméritée. Et c'est une grâce immense que de pouvoir s'approcher de ce trône. Et pour qu'il y ait justement le trône de la grâce, pour que nous puissions nous en approcher, j'aimerais nous rappeler ce que Dieu a accompli pour cela. Il a fallu que Dieu quitte son ciel de gloire, son trône de gloire, et qu'il vienne en simple homme sur cette terre. Qu'il vienne non pas pour se faire servir, lui qui est roi, lui qui est le roi des rois, lui qui est le tout-puissant, lui qui est le Dieu créateur, lui qui est souverain. Mais il est venu pour servir, il est venu pour nous servir. Et savez-vous quel trône on lui a donné ici-bas? On peut le dire ensemble? La croix. Savez-vous quelle couronne on lui a donnée ici-bas? Une couronne d'épines. Et tout cela, il l'a subi pour nous, pour toi ce soir. Il l'a subi pour que tu puisses t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Jésus-Christ a accepté cela volontairement, par amour, pour que tu puisses recevoir, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être en paix avec Dieu, être réconciliés avec lui, et pouvoir chaque jour, oui, profiter de cette grâce immense, de s'approcher de son trône, et de pouvoir obtenir miséricorde, de pouvoir trouver grâce, de pouvoir être secouru tout le temps, constamment, sans défaut, parce que Dieu est fidèle. Et nous le savons, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il ne le laisse pas crier. La parole est certaine. Dieu ne se moque pas de nous. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. C'est pour cela, ce soir, ne te prive pas justement de t'approcher avec assurance, avec conscience, avec foi, en réalisant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ne te prive pas de t'approcher de ce trône, du trône de la grâce. Parce que nous savons que nous sommes encore dans ce temps, le temps de la grâce. Mais nous savons que le temps de la grâce a une fin, et qu'un jour, eh bien, Jésus-Christ sera plus sur le trône de la grâce, mais sur le grand trône blanc. Il y a différents trônes dans la parole. Et nous voyons ce trône dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. On peut prendre ce passage ensemble, venez avec moi. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Puis je vis, verset 11, un grand trône blanc. Et ce passage nous montre ce moment où Jésus-Christ jugera, où ce sera la fin, où les choses seront scellées, où il ne pourra pas y avoir de retour en arrière et où les choix seront définitifs. Ceux qui auront accepté, reçu Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, ceux qui se seront repentis, convertis, tournés vers lui et ceux qui auront marché dans ses voies, oui, auront la grâce d'être reçus par le Seigneur. Mais pour ceux qui auront refusé, résisté, pour ceux qui se seront privés de s'approcher de ce trône de la grâce, eh bien, subiront cette seconde mort. Et nous voyons ce grand jugement qu'il y aura à ce moment-là, et ce moment de tourment, d'effroi pour ceux qui n'auront pas pris cette décision. Ce soir, ne manque pas de répondre à l'appel de Dieu, de faire vraiment la paix avec Dieu, de t'approcher de lui. Parce que là aussi, si nous voyons la parole qui est certaine pour le secours de Dieu, nous voyons les conséquences qui sont certaines pour le refus, le rejet de Dieu. Si nous comprenons et si nous voyons dans la parole le trône de Dieu, j'aimerais voir un instant, et c'est pas très loin dans l'Apocalypse toujours, chapitre 2, justement, le trône de Satan. Parce que la parole nous parle du trône de Satan. Et nous montre justement ce qui se passe quand on refuse que Dieu règne sur le trône de nos cœurs. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 12, on peut voir ensemble, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. » Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et on voit donc dans ce passage, il est question aussi d'un autre trône qui est incomparable, bien entendu, avec le trône de Dieu. Le trône de Dieu est inégalable. Il est bien largement au-dessus de tout. Et là, dans ce passage, on voit, il est question du trône de Satan. Et on voit donc dans cette église à Pergame qu'il y avait une certaine fidélité, mais en même temps un mélange. Il y avait une fidélité dans la foi, dans le témoignage. Mais on voit que cette église bien, avait laissé une porte ouverte à ce qui ne venait pas de Dieu. Cette église était là où demeurait le trône de Satan. Alors, cela signifiait, c'est quand on regarde justement ce qu'il se passait dans la ville de Pergame, cette ville était remplie d'idolâtrie. Il y avait toutes sortes de temples d'idoles et toutes sortes de choses abominables qui étaient faites. C'est pour cela que Dieu dit à cette église, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Cela ne signifiait pas que le trône de Satan était dans l'église, mais c'était dans le lieu où elle était, dans la ville où elle était. Mais en même temps, il y avait quand même une porte qui était laissée ouverte. Parce que, vous savez, nous, on a le même appel à être vigilant justement aux relations. La parole nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand justement on est proche du trône de Satan, il y a des risques. Parce que là où Satan règne, il n'y a pas de sécurité. Et il nous faut savoir être vigilant. Et la parole est claire. Elle nous dit que dans ce monde, c'est le prince de ce monde qui gouverne. Le prince de ce monde, c'est Satan. La Bible dit que c'est lui le prince de ce monde et que c'est lui qui influence les choses qui se passent dans ce monde et qu'il cherchera toujours de la même manière à influencer l'Église, à détruire l'œuvre de Dieu de la même manière que dans l'Église de Pergame. Comment a-t-il agi ? Nous le voyons avec cette doctrine de Balaam. C'est ce que Dieu va dire à cette église. C'est ce qu'il avait contre elle. J'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Peut-être que pour certains, vous voyez ce passage dans l'Ancien Testament, pour d'autres non. Ce passage nous montre ce moment où Balak cherchait à maudire le peuple d'Israël, cherchait à l'arrêter, à chercher à l'égarer. Et il appelait Balaam pour cela, afin que Balaam envoie la malédiction sur le peuple d'Israël. Mais Balaam était empêché d'envoyer la malédiction parce que Dieu bénissait son peuple. Parce qu'il marchait dans l'obéissance, parce qu'il marchait dans la droiture, le peuple de Dieu était protégé. Mais Balaam va donner un conseil très pernicieux, très vicieux à Balak. Il va lui donner ce conseil d'envoyer les filles de Moab vers les fils d'Israël pour les faire chuter, pour les séduire, pour les amener à la débauche, les amener à entrer en relation avec ces filles de Moab, ce qui était chose interdite, ce que Dieu avait interdit à son peuple, parce qu'il y avait des conséquences. Ce n'était pas une règle pour établir une règle, c'était pour garder son peuple en sécurité que Dieu avait ordonné cela à son peuple. Et encore pour nous aujourd'hui, les règles de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais ils sont bons, ils sont saints, ils sont parfaits, ils sont pour notre salut. Et dans ce moment-là, on voit justement ces conséquences, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On voit cette alliance qu'il y a eu entre les fils d'Israël et les filles de Moab et les conséquences terribles qu'il y a eu, cette débauche qu'il y a eu. On voit comment ils ont chuté, comment l'œuvre de Dieu après par la suite s'est arrêtée au sein du peuple d'Israël. Et ce soir, de la même manière, Dieu te dit de ne pas te mettre sous un joug étranger. Vraiment, j'ai la conviction pour quelqu'un. Ce soir, Dieu te dit de ne pas te mettre sous un joug étranger, c'est-à-dire ne pas t'allier avec une personne dans le monde, c'est-à-dire ne pas te joindre, de t'unir avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Car comme le dit la parole, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, le diable? Séparez-vous. « Séparons-nous, dit le Seigneur. » Le Seigneur nous appelle toujours à savoir veiller aux portes de nos cœurs, à savoir veiller à qui c'est qui règne sur notre cœur, à savoir vraiment être vigilant à ce que l'on laisse entrer. Le Seigneur nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Et dans ces temps qui sont les derniers, Satan est toujours là à se démener justement pour faire tomber, pour faire chuter, pour placer des pierres d'achoppement devant les fils de Dieu, les enfants de Dieu, pour les pousser à la désobéissance, parce que Satan sait très bien que Dieu ne règne pas partout. Dieu ne règne pas partout. Et il le sait très bien. Dieu ne règne pas sur le péché. Et s'il réussit à faire désobéir à un enfant de Dieu, il réussit à empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer et à empêcher Dieu de régner. S'il réussit à pousser le peuple de Dieu à la désobéissance, il réussit à faire tomber le peuple de Dieu sous son règne. On voyait dimanche dernier cet appel à l'humilité. Le Seigneur qui, justement, nous enseigne à veiller, à marcher dans l'humilité. Et on a vu ensemble ce passage dimanche dernier dans 1 Pierre chapitre 5, où justement, il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Et parce que l'œuvre de l'ennemi sera toujours la même, encore envers chacun de nous, jusqu'à la fin. Il poussera d'une manière ou d'une autre au péché, à la désobéissance. Et ce peut être justement en nous poussant à l'orgueil. Parce que c'était une parole justement d'un pasteur qui m'avait marqué, interpellé, qui disait que si l'ennemi ne réussit pas dans ta marche avec le Seigneur à t'arrêter, si justement par des tentations, par toutes sortes de choses, il ne réussit pas à te décourager, à te faire dévier, eh bien ce qu'il essayera, c'est de t'élever. Et c'est ce que nous rappelait notre frère Jérôme dimanche dernier. Plus on se rapproche de Dieu, plus on sert le Seigneur, plus on se tient dans la prière, plus on se tient dans sa présence, plus on marche de progrès en progrès, plus on s'approche de son trône, on se tient devant lui, plus il y a des dangers. Alors bien sûr, il nous rappelait que cela n'est pas une raison pour ne pas le faire, qu'il ne faut pas comprendre mal ces termes-là. Bien sûr, le Seigneur nous appelle à toujours nous approcher de lui, à persévérer. Et ne vous inquiétez pas, c'est là qu'il y a la pleine sécurité, le plein repos. C'est là que nous avons tout pleinement pour tenir ferme, pour tout surmonter, pour résister aux traits enflammés du malin. Parce que, comme pouvait le dire David dans le psaume, voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. De la même manière, on sait, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il ajuste ses flèches pour tirer sur ceux dont le cœur est droit. Mais la parole nous le montre dans Éphésiens chapitre 6, et on voit cette armure que le Seigneur nous a donnée, cette armure complète qu'il nous faut savoir nous charger chaque jour pour savoir lutter contre les pièges du diable, ne pas tomber dans ces pièges. Et il est question du bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais veillons à ne pas justement tomber justement dans ce piège de l'orgueil. Il n'y a pas que cela, on pourrait donner tant d'autres choses qui peuvent empêcher l'œuvre de Dieu, l'arrêter. La colère, la paresse, la médisance, toutes ces choses, quand elles sont acceptées, quand elles sont pratiquées, quand elles sont tolérées, empêchent Dieu de régner. Ce n'est plus Dieu qui règne. Et si ce n'est plus Dieu qui règne, c'est l'ennemi qui règne. Et la parole de Dieu nous appelle à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, à justement à faire mourir ce qui dans nos membres est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la débauche, à renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, aux mensonges. Il y a un choix. Il n'y a pas besoin d'une délivrance pour toutes ces choses. Il y a besoin d'un choix. Nous avons besoin d'un choix. Notre frère Janson nous disait que pour avancer avec le Seigneur, nous avons besoin de faire la paix avec lui, d'être purifiés par son sang qui a coulé pour cela pour nous. Mais nous avons besoin de savoir ce que nous voulons. C'est ce qu'il nous disait en d'autres termes. C'est qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous voulons aller? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons devenir? Quel choix nous voulons prendre? Est-ce que nous voulons stagner, rester là où nous en sommes, rester dans toujours la même situation, le même état? Et l'image, elle était bonne, elle était simple, elle était bien. Mettez quelqu'un sur un vélo à deux roues sur place, il ne restera pas longtemps. Des fois, on en voit des feux qui tiennent, qui sont un peu en équilibre, mais on sait qu'on ne peut pas rester longtemps. Et quand on s'arrête, quand on fait du surplace, quand on reste en position, quand on choisit cela, c'est ça le risque, c'est de tomber. Et quel choix on prend ce soir? Quel choix on va prendre? On a besoin d'un choix, simplement. Le choix de renoncer à toutes ces choses, renoncer au péché, renoncer à la désobéissance, renoncer à la débauche, à tout ce qui n'est pas de Dieu, pour le laisser régner entièrement, pleinement. Et oui, nous verrons sa gloire se manifester. Oui, nous verrons davantage sa gloire dans l'Église, parce que c'est vrai que nous avons besoin, il y a une part personnelle pour cela, une part collective, mais il y a une part personnelle pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et je crois que c'est ce à quoi nous aspirons tous. Et c'est la grâce que Dieu veut nous donner, vraiment. Et il y a vraiment un verset qui me dépasse. Il y a vraiment des versets, on est limité, vraiment. Et c'est un verset, si vous êtes toujours dans l'Apocalypse, regardez dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Il y a des versets, même en tant que pasteur, là j'ai pas encore la vision, là je peux pas m'imaginer là dans ce verset-là, tellement il est glorieux, tellement il est merveilleux, tellement il nous montre la grâce, l'amour de Dieu à notre égard, sa bonté. Regardez avec moi, Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Là, je vous l'ai dit, moi, personnellement, là, il y a une limite, mais j'accepte. Mais quelle grâce, quel amour, quel encouragement. Celui qui vaincra, donc vraiment, on le sait, le Seigneur nous a tout donné pour vaincre. Il a tout accompli et il a mis en spectacle les dominations de ce monde, le prince de ce monde, il a livré un spectacle, il a vaincu à la croix, il a triomphé et il nous donne de triompher, il nous donne d'être plus que vainqueur et il nous donne d'être vainqueur jusqu'au bout, jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Mais quel Dieu, quelle grâce, quel amour. Alors ce soir, pour terminer, bien de la même manière que David le réalisait dans le psaume 11, oui, l'Éternel est dans son temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste. Et ce soir, Dieu voit, Dieu nous voit, Dieu te voit, Dieu sonde nos cœurs. Et il voit les circonstances par lesquelles nous passons. Il sait toutes choses. Il voit les épreuves, il voit les difficultés. Mais mes frères et sœurs, ne nous inquiétons pas. Vivons cette réalité, la réalité de vivre concrètement cette réalité. Dieu est sur son trône. Il règne, il gouverne, il est souverain, il maîtrise tout. L'Éternel voit, il sonde Et il voit aussi comment, justement, comment nous répondons. Comment nous répondons à ce message? Comment nous répondons à son appel à nous approcher de lui avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, hein, trouver grâce, être secouru dans tous nos besoins? Nous l'avons vu, Dieu, je le répète pour encore, comme si on ne l'avait pas compris, Dieu est sur son trône, il règne, mais nous avons vu, il y a le trône de Satan. Maintenant, la question c'est, qui est sur le trône de mon cœur? Qui est celui qui règne sur le trône de mon cœur? Si c'est Dieu qui règne, alors pourquoi s'inquiéter? Si c'est l'ennemi qui règne, si ce soir tu réalises que c'est le péché qui règne sur ton cœur et que par conséquent Dieu n'y règne pas, si ce soir, oui, tu es comme cet homme... Eh bien, qui a fait du surplace, qui est resté sur place à vélo et qui est tombé d'un côté et d'un autre, ce soir, rapproche-toi. Vraiment, c'est le temps. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Ce soir, c'est le temps. Tu peux, comme nous l'avons entendu, t'approcher. Ce soir, c'est pour toi. Ne te prive pas. Et il y a le trône de Dieu. Et Dieu veut te secourir, veut te fortifier, veut te délivrer, veut te libérer, veut sauver ton âme. Veut te donner sa paix, veut te donner la victoire dans la souffrance. Oui, ce soir, comme David, choisis de placer ta confiance dans le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes si petits, tu es si grand. Ton amour, Seigneur, nous dépasse, ta miséricorde, Seigneur, aussi. Et tu es ce Dieu qui, encore ce soir, nous appelle à nous approcher de toi, à nous approcher de ce trône élevé, nous approcher de ta sainteté. Parce que tu as tout accompli pour cela, cette grâce immense, cette faveur imméritée, tu nous la donnes, tu nous l'accordes. Seigneur, ce soir, oui, nous ne voulons pas nous priver. Ensemble, nous en avons tous besoin. Et nous voulons ensemble encore, vraiment d'un commun accord, nous approcher de toi. Tu nous le dis dans ta parole, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Tu nous appelles aussi à nous purifier. Et c'est ce que nous voulons ce soir, qu'il n'y ait rien en nous qui t'empêche de régner pleinement, entièrement. Ce soir encore, Seigneur, sonde-nous, éclaire-nous par ton esprit, agis, émande, enlève. Oh, Seigneur, nous t'en supplions. Nous te demandons encore pardon, pardon pour tout ce qui n'est pas de toi. Pardon, Seigneur, pour nos manquements, pardon pour nos péchés. Seigneur, ce que nous voulons vraiment, c'est que, oui, tu règnes et que tu sois le seul à régner sur le trône de nos cœurs. Nous voulons vraiment considérer ton trône et vivre cette vérité. Nous voulons réaliser que ce trône sur lequel tu es est inébranlable et que tu es souverain, que tu maîtrises tout, que les temps, les circonstances sont dans ta main, qu'importe les circonstances par lesquelles nous passons, les souffrances, tu tiens toutes choses et que même si les fondements étaient renversés, que même si... tu permettais par différentes raisons que les appuis sur lesquels nous pouvons placer notre conscience soient renversés. Nous savons que tu es là sur ton trône pour nous donner de nous appuyer entièrement, pleinement sur toi. Seigneur, oui, fais ton œuvre dans nos vies. Seigneur, conduis-nous, éclaire-nous, que ta volonté soit faite et que, Seigneur, oui, ta gloire se manifeste. Amen.